tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées.
Maïdé, micro-son.
Alors aujourd'hui, nous avons le trail de Sceaux, dans la Drôme, à 20-25 km de Montélimar, hein, à peu près, au nord de Die, ouais, dans le sud de la France. Moi, j'ai fait donc 15 km, mais il y a aussi 27 km pour les plus teigneux. On a contourné, en fait, le rocher tout autour, et on a fait un petit peu grimpette aussi.
Okay. Voilà. C'est important à préciser, on a couru pour la paix aujourd'hui, donc ça, c'est important de le dire. Donc c'était un beau challenge et une belle motivation de faire ça.
C'est-à-dire courir pour la paix?
Eh ben, c'était le trail de la paix, en fait. Voilà, c'était le thème de la course aujourd'hui.
Ok, mais la paix, comment ça, la paix?
La paix dans le monde. La paix intérieure.
C'est ce qui résume finalement cette course, et retrouver peut-être aussi la paix intérieure.
Ok, mais alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la France vende des armes un peu partout à l'étranger?
Pas de réponse.
Ouais, moi non plus, j'ai pas m'engager là-dessus. Non.
C'est quand même une question centrale dans la paix.
On est là pour courir et se détendre.
Voilà. C'est vous qui me dites que vous étiez là pour la paix. C'est quand même central,
oui,
la question des ventes des armes.
La paix globale, c'est ce qu'on disait, la paix intérieure, la paix.
S'il n'y avait pas d'armes, le monde se porterait mieux. On est d'accord.
Voilà. Merci. Bonne journée à vous.
Merci. Au revoir.
T'as l'air nul.
Pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
Donc là t'es en train de. T'es en train d'enregistrer.
On n'entend rien du tout.
Mayday. Si, Mayday. Écoute bien.
Mayday. Veuillez prêter la plus grande attention.
Au cas où, s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio.
Mon message suivant.
Tu décrirais ça comment, toi, Mayday?
Une émission un peu kaléidoscopique.
À quoi ça sert? C'est quoi le but?
Ça résonne dans tous les sens, avec des couleurs.
Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons.
Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient totalement confus.
Et quand finit le scénario?
Tous les mercredis. Et vous, tous les mercredis.
Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Canu.
Ah, je me suis emmêlé, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
Mayday, saison 7. 7.
Le soulèvement de la Terre, nous, on a rejoint il y a pas longtemps une coalition qui s'appelle Guerre à la Guerre, une coalition anti-militariste.
On est au cœur d'une espèce de monstre industrialiste et qui en plus est un monstre autour du militaire qui se préoccupe surtout de la létalité et de l'efficacité meurtrière de ce qu'il produit.
Il y a les avions de chasse, les chars d'assaut, les drones et sous leurs bombes, les corps des civils.
J'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu qu'ils construisaient des bombes, je pense, guidées.
La même puce, la même batterie au lithium, elle peut servir pour un smartphone ou un système de guidage de missiles ou de drones.
Il y a le réarmement de l'Europe, les subventions publiques et les profits des marchands d'armes.
Ça veut dire que la ville de Marchand participe aussi à l'armement pour tuer des gens, peut-être à Gaza et aussi dans d'autres pays.
Il y a les usines de la mort qui fabriquent des capteurs et des micro-puces qu'on embarque dans des armes, écrasant aussi bien les résistances populaires à l'autre bout de la planète que dans les rues de nos villes.
Il y a énormément de composants fabriqués par STMicro qui ont été retrouvés dans des drones utilisés par l'armée russe.
Du coup, j'étais un peu choquée, un peu furieux.
En ce moment, les semi-conducteurs, c'est un peu le nerf de la guerre. Et du coup, c'est ça qui permet de faire des armes toujours plus destructrices pour les humains ou pour la nature.
Oui, l'innocence en quelque sorte des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin est désormais révolue. Quoi qu'il advienne, il nous faut nous équiper davantage.
La guerre revient à la mode et plus assumée avec la volonté de Macron de préparer l'économie de guerre.
Hausser notre position de défense et cela pour la paix même.
Les entreprises assument plus de dire hey, « nous on aide à la défense de la nation ».
Pour dissuader. Renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité.
Et du coup, on fabrique des objets destructeurs et rendent les guerres toujours plus inhumaines et destructrices.
On nous a dit dernièrement que la guerre était revenue, qu'on ne pouvait plus tergiverser,
qu'il était temps de former une nouvelle union sacrée, produire des armes sans rechigner, les vendre à nos amis et se tenir prêts à les utiliser.
Pour qu'à l'unisson on puisse parler du retour de la guerre, il fallait des affrontements bruyants et proches. Il fallait l'Ukraine, l'identification européenne, un peuple susceptible de créer de l'empathie. Il fallait en somme que les morts soient un peu plus blancs.
Pourtant, la guerre ne nous a jamais quittés. Ni après 1945, ni après 1991 et la fin de la guerre froide. Tout au plus, on la délocalisa. On prétendit la tenir à distance des âmes. On nous dit ici en Occident que l'histoire était finie, que l'humanité pouvait désormais profiter de l'abondance des marchandises et de la démocratie.
Une fin de l'histoire en réalité garantie au prix d'un ordre sanglant, dont les horreurs ne devaient frapper, lointainement, que quelques barbares qui n'avaient pas encore voulu entendre les bienfaits de la civilisation. Aussi, les États-Unis, vainqueurs modestes, se firent, comme le veut l'expression, gendarmes du monde.
Avec la fin de l'histoire triomphale de l'Occident, les dispositifs contre-insurrectionnels que les différents impérialismes avaient su aiguiser au cours des guerres décoloniales entre les années 50 et 90 furent repris par les états-majors des mêmes armées contre de nouveaux ennemis.
Au début du XXIe siècle, ces nouveaux ennemis n'étaient plus des états réguliers. Au sein de l'Empire, on se mit à justifier les pires horreurs au nom de la lutte contre les terroristes, les groupes rebelles et les états voyous. Contre eux, tout était permis. Le droit international, bien entendu, ne s'appliquait pas pour ces barbares. La guerre devint asymétrique et irrégulière.
Ainsi donc, la guerre s'étendit et assuma des moyens plus modernes. Contre-insurrection et bientôt cyberguerre, désinformation et autres pratiques non conventionnelles. On conclut que la guerre, ce grand fourre-tout, était devenue hybride, avant de finalement revenir sans maquillage sur la scène de l'Europe, en Ukraine.
Autant dire qu'au fait de disparaître, la guerre s'était plutôt employée à tout contaminer, mêlant finalement, en bout de chemin, militaire, politique, sécuritaire et civil.
Loin de la propagande de ces dernières semaines, qui a toujours été l'une de ses armes favorites, la guerre n'a donc jamais quitté le territoire français. Ici, par exemple, à deux pas de chez nous, on produit des armes grâce au travail docile des ingénieurs de Thales, Dassault, Safran, Soitec, ST Micro et les autres.
Ici, on raffine toujours un peu plus les moyens de mettre à mort là-bas.
Certains d'entre nous, on était dans un collectif qui s'appelait la Nina Lyon et qui luttait contre la touristification du monde et les center parks, entre autres le center park de Roibon. Et au cours de l'existence de ce groupe, on a commencé à s'intéresser à d'autres questions, entre autres aux questions du commerce des armes, parce qu'on avait des liens assez fort avec les personnes qui ont créé l'Observatoire des armements, qui est un gros centre de documentation sur les questions d'armement, de militarisme, d'antimilitarisme, de pacifisme. Les gens de l'Observatoire des armements ont sorti un dossier qui s'appelait « La guerre se fabrique près de chez nous », qui montrait l'implantation et le rôle des entreprises d'armement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans toute une série de conflits à travers le monde. Alors des conflits légaux ou des conflits illégaux, qu'il s'agisse de guerres civiles, des guerres d'agression, de répression féroce contre certaines parties de la population. Et à partir de là, on a fait une réunion publique où il y a eu pas mal de monde. On a décidé de lancer un truc qui, petit à petit, s'est appelé la coordination régionale anti-armement et militarisme. Donc moi, je suis Jean-Pierre, je suis un des vieux de la bande. Dans mon jeune temps, j'ai fréquenté les milieux antimilitaristes des années 70-80.
Sandrine, je fais partie de la coordination régionale anti-armement et militaire.
Pour ma part, en fait, la question militaire, je l'ai découverte par le biais de la critique du numérique sur la question de la numérisation du monde et de nos vies. J'ai découvert en fait la dualité de la question du numérique, donc à savoir les applications qui sont à la fois civiles et militaires. Et c'est aussi pourquoi maintenant je fais partie du CRAM, puisque à partir du moment où on a tiré donc la ficelle de la pelote et qu'on découvre que le numérique découle forcément d'applications militaires, bien en fait cette question est apparue pour moi importante à creuser.
On a eu la chance d'entrer rapidement en contact avec des copains qui étaient sur Grenoble. Grenoble qui est le pays de la microélectronique, de l'intelligence artificielle et de la convergence de la recherche au service du militaire et du civil. On a vraiment été très présents aux mobilisations qu'organisait Stop Micro, les deux grosses manifestations qu'ils ont fait à Grenoble en 2023 et 2024, où on montrait le lien qu'il y avait entre le civil et le militaire, la recherche, l'industrie, et tous ces éléments-là. Sur Lyon, il y a une structure qui s'appelle le Cluster Eden. C'est un réseau qui se veut européen pour faire connaître l'industrie de l'armement de la région Rhône-Alpes, et il a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. C'est pour ça que dans la brochure qu'on a sortie, on l'a vraiment mis au centre de la toile d'araignée militaro-sécuritaire qui est en train de se créer, et il s'est énormément développé. Et maintenant, il y a 170 entreprises qui en font partie, et parmi ces 170 entreprises, il y en a en région Rhône-Alpes un certain nombre qui ont été prise la main dans le sac dans toute une série de choses très très dégueulasses au point de vue international. C'est-à-dire, après avoir armé des dictatures, par exemple, il y a une entreprise qui a fourni des pistolets et des munitions à l'armée ivoirienne alors qu'il y avait un embargo militaire qui a permis de tuer des centaines de personnes à Abidjan. Une qui a relooké des vieux hélicoptères militaires pour les vendre au Togo, qui est toujours une dictature. Il y a une entreprise qui fabrique des fusils de précision qui s'appelle PGM, qui a vendu ses fusils aux forces spéciales israéliennes et égyptiennes, et aussi au GIGN, qui a utilisé ses fusils pour tuer les Kanaks durant les derniers mouvements sociaux de 2024. Il y a aussi des entreprises qui violent systématiquement les embargos militaires. On en a deux dans la région, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres ailleurs. Une entreprise qui fait des composants électroniques qui s'appelle Nicomatic, qui a vendu ses composants à la Russie alors qu'il y a un embargo, en passant par sa filiale chinoise. Et une autre entreprise qui s'appelle Elister, qui, elle, a beaucoup de publicité négative ces temps-ci, qui fabrique des drones de surveillance, pour le civil, mais surtout pour le militaire, et qui en a vendu ces drones aux services de sécurité russes entre début de l'embargo militaire jusqu'en 2022-2023. Ces drones, on ne sait pas où ils sont utilisés, mais en tout cas, ils ne dorment pas dans des placards pour faire joli. Et en plus, à côté de cet univers, il y a des grosses entreprises qui sont dans la région. Il y a Nexter qui fabrique des blindés et des systèmes de sécurité. Il y a Arcus qui est un fabricant aussi de blindés qui équipe l'armée française, mais qui fournit aussi des blindés aux forces de répression libanaises, des blindés aux Chiliens. Nexter fait de même. Et tous ces matériels ont été utilisés à un moment ou à un autre pour éradiquer, pour détruire, pour réprimer des mouvements sociaux. Et sur ces blindés, par exemple, ils se sont beaucoup développés après les printemps arabes. Parce qu'il y a eu des demandes aussi d'un certain nombre d'États arabes qui étaient très embêtés parce que les matériels qu'ils avaient à disposition pour réprimer les mouvements sociaux, ils n'étaient pas adaptés au tissu urbain. Donc on a les Français, ils ont fabriqué des blindés qui sont assez petits, assez allongés, pas forcément très très larges, avec plein de roues, et qui permettent de passer sur toutes sortes de terrains, et entre autres de manœuvrer facilement dans les villes. Vu que c'était essentiellement des mouvements urbains, il fallait du matériel pour réprimer tout ça.
Ce sont ces blindés qui ont patrouillé et tiré dans les rues de Paris, Lyon, Marseille, après qu'un policier a assassiné Naël à Nanterre en juin 2023 et que la révolte a éclaté.
Des blindés guidés depuis les centres de supervision urbain équipés par l'entreprise Thales.
Ces centres coordonnent l'action de troupes qui dévalent, armures et armes au poing, les rues de nos villes.
Ces méthodes et ces armes sont issues du répertoire des guerres coloniales qu'elles réadaptent et reconditionnent pour le champ de bataille métropolitain. Il y a une continuité coloniale entre les guerres menées par nos armées dans le Sahel et la répression des révoltes populaires ici. De la lutte contre l'ennemi extérieur à la lutte contre l'ennemi intérieur.
On nous vend donc la sécurité globale.
Et derrière elle, il y a ces allers-retours déjà vus de plusieurs décennies entre les terrains où s'exercent violemment les impérialismes et les rues révoltées de nos villes.
Partout, les armées, les polices et les matons de nos États sont formés à la contre-insurrection, celle que nos armées mènent contre les guérillas qui lui résistent.
Si les moyens diffèrent, c'est que la vie des résistants et résistantes n'obéit pour le moment pas aux mêmes standards, selon qu'elle s'éprouve en Occident ou dans des espaces lointains.
Voilà donc des décennies, des siècles sans doute, que la guerre des États contre les peuples façonne nos sociétés.
Sans cesse en mouvement, cette guerre est le moteur des progrès technologiques des armées.
Des progrès qui contaminent ensuite nos sociétés.
Avant d'être la toile et le support promis du village global, Internet a d'abord été créé comme un système décentralisé d'information pour l'armée américaine.
C'est que la guerre est depuis longtemps devenue une technologie de gouvernement.
Une des raisons aussi pour lesquelles on s'est intéressé à l'industrie de l'armement, c'est que c'est une question qui est à la fois extrêmement importante et qui est totalement dépolitisée. Depuis la fin des mouvements antimilitaristes des années 70, 80, éventuellement début 90, et ces mouvements ont disparu et se sont considérablement affaiblis avec la disparition du service militaire. L'axe qu'on a choisi, il faut s'attaquer à ce qui permet les guerres, c'est-à-dire le matériel. Et ces questions-là sont totalement dépolitisées en France. De la même manière qu'on a une armée, on a l'impression que c'est des gentils bisounours qui vont porter la paix et s'interposer entre des sauvages qui se battent dans toutes sortes de pays à travers le monde, alors que la réalité n'est pas ça. Et de la même manière, à fabriquer des armes, finalement, ça serait une activité comme les autres. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une activité comme les autres, parce qu'elle est soumise strictement aux décisions étatiques, qui à la fois financent, mais qui aussi autorisent l'utilisation et l'exportation de ces matériels. Et la France, elle a un souci, elle a besoin de beaucoup exporter d'armement, parce que son armée, ses forces armées sont incapables d'assurer la rentabilité de ce qui est produit. C'est-à-dire que si Dassault, son seul client, c'était l'armée française, l'armée de l'air française, pour le Rafale, les chaînes de production du Rafale ne tiendraient pas très longtemps. Il faut vendre à l'étranger, il faut vendre des blindés, il faut vendre des canons, il faut vendre des systèmes de surveillance, il faut vendre des missiles, et toute une série d'industriels sont présents sur ce créneau. Ce qui fait qu'effectivement la France, suivant les années, c'est le quatrième, ou pour l'année là qui est en cours, le second exportateur mondial d'armes. Ça varie chaque année, c'est sur des petits volumes, mais c'est extrêmement important. Et puis surtout, les armes, ça se négocie d'État à État. On n'est plus à l'époque de Basile Zaharoff, le marchand d'armes bien connu, qui vendait des armes à qui voulait. Ça, c'est fini. Les États contrôlent ce qu'ils vendent. Et ils contrôlent ce qu'ils vendent parce que c'est à la fois des marchés, et en vendant des armes, on exporte la puissance de l'État vendeur.
Allô ? Allô, oui ?
Ah, mon petit Roubanov, comment allez-vous ? Je suis content de vous entendre, j'attendais de vos nouvelles.
On avait fort à faire, vous comprenez ?
Oui, évidemment, évidemment. Bon, alors, vous avez pu réfléchir ?
Eh bien, vous savez, je me disais qu'on allait se laisser tenter par vos petites caméras infrarouges pour les installer dans nos tanks. Vous savez, celles que vous aviez déjà vendues dans le Donbass en 2014, il me semble.
Ah, ouais, je me souviens très bien. De véritables petits bijoux. Est-ce qu'on vous remet la version 4 XP?
Je ne me souviens plus de celle-ci.
Mais si, on vous en a livré en 2019 une cinquantaine de mémoire.
Détection des cibles humaines en pleine nuit, repérage d'un véhicule dans un rayon de 10 km, vous vous souvenez
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Va pour les 4 XP.
Très bon choix.
Mais.
Qui a-t-il je ne vous sens pas à 100%.
Ouais, c'est que quelque chose me chiffonne un peu.
Voyons. Vous savez que vous pouvez tout me dire. On se fait confiance, vous et moi.
Eh bien. Je sais pas comment vous le dire tout de même. Bon, écoutez, je vais le dire de but en blanc. La France n'a-t-elle pas dit que nous, les Russes, nous étions les adversaires?
Si, elle l'a dit.
Bah, comprenez que j'ai quelques doutes quant à votre loyauté.
Oui, non, mais enfin, mon petit Roubanov, écoutez, il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Moi, en théorie, évidemment, que je suis contre la guerre. C'est absolument horrible, la guerre. Bon, alors, je vous en mets combien des 4 XP?
Je me souviens, quand j'étais enfant, mon papy m'amenait tous les ans à la fête foraine. Et après avoir fait la chenille, on allait toujours au stand de tir à la carabine.
Oh, mais c'est quoi ce bruit là?
Ouais, c'est quoi? Ah non, merde, pardon, c'est moi, c'est mon tel.
Tago, tu pouvais pas le mettre en mode avion comme tout le monde en entrant dans le studio là? Enfin, j'étais lancé.
Désolé, j'ai oublié.
Ouais, bah fais gaffe. Bon, je reprends. Je me souviens. Quand j'étais enfant, mon papy m'emmenait tous les ans à la fête.
Non mais attends, Tago, t'as un smartphone maintenant?
Non, mais enfin si, mais non.
Georges?
Mais je vois surtout que t'es dans le déni. Hein.
La fête foraine.
Non, je vais repasser à l'autre, là c'est juste transitoire.
Ah ouais, c'est transitoire, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais celui-là, tu l'as acheté?
Non, c'est un vieux qu'on m'a refilé, t'es ouf, moi j'achète pas ces merdes. Hein. Tu sais le nombre de merdes qu'il y a dans ces trucs?
Mais tu veux dire, là, tu parles des applis, les GAFAM et l'international réactionnaire, tout ça?
Ouais, mais en fait, je pense surtout aux puces électroniques.
Eh ben?
Ben, c'est de la merde.
Pourquoi?
Bah, c'est de la merde.
Bah oui, les puces électroniques, c'est de la merde.
Voilà,
c'est clair, t'as raison, ouais.
Voilà.
Il y a 1000 composants dedans qu'il faut extraire des pays lointains, et bah voilà, vous savez bien, quoi, ça produit la violation des droits, des déplacements de population, des destructions des milieux naturels. Je sais pas, de l'instabilité politique, des guerres.
Ah oui, le nouvel impérialisme, quoi.
Voilà.
Oui, ils font genre de mettre des normes éthiques sur la provenance des matériaux, mais en fait, ben l'effet que ça, c'est juste de développer les mafias transfrontalières pour tricher sur l'origine.
Ah bah super.
Catastrophe.
Hein. Juste quand on parle des matériaux là, du coup, c'est quoi en fait, concrètement?
C'est quoi? Bah il y en a 64 des différents dans un smartphone.
64. Ouais, peut-être on va pas faire toute la liste.
Ouais, juste quelques-uns.
Bah, si, la liste, moi j'aime bien la liste. Non, mais
j'y vais. Ouais. Déjà, numéro 1, il y a le cuivre. Mm-hmm. Il sert dans les fils,
les pistes de circuit imprimées ainsi que divers autres composants du fait de sa conductivité électrique. Les trois principaux producteurs de cuivre sont, dans l'ordre, le Chili, la République démocratique du Congo RDC. Et le Pérou. Voilà.
Ah ouais, il y a aussi l'aluminium numéro utilisé pour les dissipateurs et les châssis en raison de sa légèreté et de sa conductivité thermique. Et là, donc le top 3, c'est 1, l'Australie, la Guinée 2, la Chine.
Voilà. Numéro 3, ben, l'or, appliqué aux contacts et connecteurs pour sa résistance à la corrosion et sa bonne conductivité. Les trois principaux producteurs miniers, la Chine, la Russie, l'Australie.
Toujours la Chine.
Ouais. En fait, les grandes puissances pillent le monde comme des sauvages pour nos micropuces.
Ouais.
Ah oui, le nouveau colonialisme, quoi.
Et c'est pas fini, on continue. Il y a l'étain, utiliser l'étain pour les soudures, pour relier les composants aux cartes de circuit imprimé.
64, ils ont dit, là.
Et là, les trois principaux producteurs miniers sont la Chine, la Birmanie et l'Indonésie.
5, le germanium.
Géranium ?
Non, germanium, principalement produit par la Chine.
Ouais, il y a le gallium arsenide aussi nommé sous-produit de la fabrication d'aluminium. Oui. Là encore, ça vient à 99%
d'Australie ?
La Chine.
Non, mais c'est sympa, mais peut-être on fait pas toute la liste.
Attends. Juste, par contre, on a quand même oublié le cobalt.
Cobalt hyper important. Il y a aussi le mica pour son faible facteur de perte de puissance, son isolation et sa résistance à haute tension.
Il faut aussi compter
Ça va peut-être là, non ?
Je crois qu'on a compris le principe.
Ouais, c'est clair. Surtout, comment vous savez tout ça ? On dirait que vous l'avez appris par cœur.
On s'enseigne. C'était qu'en fin mars 2025, on était à une manifestation contre l'extension des deux usines fabriquant des puces électroniques vers Grenoble.
Ouais, c'est le collectif Stop Micro qui organisait. Et il y avait plus de 3000 personnes quand même. Ouais. Elles ont défilé devant les usines concernées. C'était dans le Grésivaudan, entre la Chartreuse et Belledonne. C'était magnifique. Tu avais vu sur Belledonne les montagnes enneigées. Et là, à côté, c'était moins beau. Il y avait ST Microélectronique et Soytech. Et donc, on nous a parlé de tout ça.
Avec Stop Micro, on s'oppose depuis 2 ans aux extensions de ces usines, ST Microélectronique et Soytech. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas ? Qu'est-ce qu'ils font dans ces méga-usines high-tech où des fumées toxiques s'échappent de leurs salles blanches aseptisées ? Ils fabriquent des puces, ces petits circuits imprimés sur des petits bouts de silicium qui sont à la base de tous les objets électroniques du monde.
Et semi-conducteurs, c'est des petites puces qui se retrouvent dans quantité d'objets, dans les voitures, dans les smartphones, dans les satellites d'Elon Musk, Starlink, dans plein d'objets connectés et aussi dans des armes. Et par exemple, il y a énormément de composants fabriqués par STMicro qui ont été retrouvés dans des drones utilisés par l'armée russe sur le champ de bataille ukrainien. Et dans des armes un peu partout, STMicro est très présent en Israël pour équiper les armes de l'armée israélienne. En ce moment, les semi-conducteurs, c'est un peu le nerf de la guerre. Et du coup, c'est ça qui permet de faire des armes toujours plus destructrices pour les humains ou pour la nature. Moi, je m'appelle Vincent et je bosse pour le journal Le Postillon. C'est un journal indépendant grenoblois. On est diffusé à 3-4 000 exemplaires dans la grande région grenobloise, on va dire. On est à Bernin, une petite commune à côté de Crolles. Donc c'est deux communes qui sont à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, qui était avant qualifiée de plus beau jardin de France et qui maintenant est de plus en plus urbanisée, notamment par des usines de microélectronique. Il y a plein de sous-traitants, plein de plus petites boîtes, mais il y a deux grosses boîtes, des multinationales, donc qui s'appellent ST Microelectronics et Soytech, qui sont du coup des boîtes ici du commissariat énergie atomique de Grenoble. Elles ont fait un de leurs centres de production ici, notamment pour profiter de la très bonne eau de Grenoble, puisque ces industries consomment énormément d'eau, et l'eau qui descend des montagnes est très pure, et pour la microélectronique, il ne faut pas de l'eau de tout venant, il faut de l'eau très pure déjà. Et donc, ils sont installés ici et ils consomment des quantités astronomiques d'eau pour laver les plaques de semi-conducteurs. On est en bas des montagnes, donc il y a pas mal d'eau, mais ici comme ailleurs, il y a eu plein de restrictions pendant les sécheresses, notamment 2022, qui avait des restrictions pour les particuliers, pour les agriculteurs, mais jamais pour les industriels. Et l'autre problème avec cette question de l'eau, c'est qu'ils ne s'en servent pas comme une simple force motrice. Du coup, elle passe sur des plaques de semi-conducteurs, des plaques de silicium, qui sont bourrées de produits chimiques. Le seul site de ST, donc un des deux usines, utilisait il y a quelques années, avant qu'ils s'agrandissent, 20 000 tonnes de produits chimiques par an. Tous ces produits chimiques sont en contact avec l'eau. Donc après, les industriels disent oui, mais on la dépollue avant de la rejeter dans l'Isère. Mais quand on regarde les seuils de pollution autorisés par la préfecture, par la DREAL, ils sont assez énormes et par exemple, ils peuvent rejeter 700 kg d'azote, des centaines de kilos de phosphore, des kilos de cuivre, d'aluminium, que des trucs qui ont des impacts sur les milieux aquatiques. L'azote et le phosphore, notamment, c'est responsable des algues vertes. C'est un des plus gros émetteurs isérois de PFAS. C'est des polluants éternels qui disparaissent jamais des milieux aquatiques. C'est un site qui est assez récent. Les premières usines, c'était il y a 30 ans. S'ils continuent encore des décennies, tous les polluants qui vont s'accumuler dans la rivière, dans les nappes, ont de fortes chances de pourrir complètement l'eau, comme ça s'est déjà fait à Grenoble avec l'industrie de la chimie qui a pourri complètement la nappe en dessous de Grenoble. En fait, le CEA, donc c'est Commissariat à l'énergie atomique, donc à la base c'était vraiment en lien avec le nucléaire. À Grenoble, depuis 30-40 ans, ils sont aussi sur ce qu'ils appellent les énergies alternatives, donc c'est-à-dire surtout la microélectronique. Ils ont le plus gros laboratoire d'électronique et de technologie de l'information qui s'appelle le LETI. C'est un institut de l'État avec énormément d'argent de l'État et leur but c'est de monter des start-up qui, après, certaines se cassent la gueule plus ou moins vite et d'autres deviennent des vraies entreprises puis des multinationales comme les deux, quoi. Soitec, par exemple, c'est à la fois de l'électronique mais à la base c'est des technologies pour la bombe nucléaire. C'est pour ça que la boîte a été créée, après ils ont fait plein d'autres choses. En fait, tout ce qui se passe à Grenoble au niveau innovation, ça a quasiment tout le temps en lien avec le CEA, donc quelque part avec des choses militaires. En fait, ces dernières années, dans le postillon, on sortait des infos sur d'autres boîtes, par exemple Sofradir, qui maintenant s'appelle l'INRED, qui avait détourné des embargos pour vendre des armes à la Turquie. Donc l'INRED, eux, ils font des trucs infrarouges qui aident à mieux guider les missiles, des choses comme ça. Et maintenant, là, depuis un mois ou deux mois, la guerre revient à la mode et plus assumée, avec la volonté de Macron de préparer l'économie de guerre. Là, tout d'un coup, les entreprises assument plus de dire hey, « nous, on aide à la défense de la nation ». Et du coup, on fabrique des objets destructeurs qui, grosso modo, vont, par exemple, décimer les Palestiniens en ce moment, potentiellement aider la Russie à décimer les Ukrainiens, aider les Ukrainiens à envoyer des drones en Russie et rendre les guerres toujours plus inhumaines et destructrices. Grenoble, c'est la capitale de l'armement au niveau microélectronique. C'est l'Observatoire des armements qui dit ça. Vraiment, toutes les innovations, les armes les plus pointues, ont un lien avec des labos et des entreprises grenobloises, quoi. Mais si on lit la presse ou les communiqués des entreprises, on a l'impression que toutes ces technologies servent pour sauver la planète, pour faire des meilleurs diagnostics dans les hôpitaux. La santé, c'est une part très minime, mais sauver la planète, c'est complètement du foutage de gueule, parce que c'est des trucs très énergivores qui vont collecter plein de données pour dire « Ah, on peut mieux comprendre le réchauffement » ou je sais pas quoi, mais on s'en fout, on sait qu'il faut avant tout ralentir et arrêter les conneries, quoi. Vraiment, il y a des luttes depuis deux ans. Il y a des textes critiques en gros depuis une vingtaine d'années. Et il y a eu une manifestation organisée en 2006, mais sur Grenoble, sur un centre qui s'appelle Minatech, qui est le premier centre européen pour les micro et nanotechnologies, qui était inauguré en 2006. Donc là, il y a eu une grosse manif. Et sinon, au niveau vraiment en dehors de textes critiques, que ce soit dans des journaux, sur des sites internet, ça va être la troisième grosse manif qu'il y a. Il y en a eu une il y a deux ans, une il y a un an et une cette année, quoi. En fait, ça a été vraiment parce que l'été 2022, du coup, il y a eu l'annonce de l'extension qui, notamment, du coup, impliquait une énorme hausse de la consommation d'eau et, par ailleurs, une énorme gabegie d'argent public parce que c'est, selon leurs propres chiffres, c'est 2,9 milliards donnés par l'État pour seulement 1000 emplois annoncés, ce qui fait 2,9 millions par emploi. Parce qu'en fait, la microélectronique, comme partout ailleurs, c'est de plus en plus des robots qui bossent et des machines qui coûtent très très cher. Donc, en fait, les subventions, c'est pas pour des humains, c'est pour les robots, quoi. Et après, c'est des robots qui fabriquent des puces pour améliorer les robots et remplacer les humains. Et du coup, sur cette question de l'eau, ça a fait vraiment une grosse incohérence, quoi. De dire partout, il faut serrer la ceinture. Et là, ils annoncent que ce site va doubler, tripler sa consommation d'eau, qui est déjà astronomique, qui représente déjà, là, les deux sites, l'équivalent de tous les habitants de Grenoble.
Sur la gauche, vous avez la Com-Com du Clézy-Vaudan, la communauté de communes. C'est là que se décide l'artificialisation des terres agricoles. 11 hectares de terres agricoles qui vont être pillées pour l'agrandissement de l'usine de Soitec.
L'année dernière, juste avant la mobilisation qui avait eu lieu, ils ont annoncé qu'ils suspendaient. Donc les opposants ont dit que c'était une victoire de la mobilisation. Et ils disaient que c'était surtout dû au marché volatile des semi-conducteurs. Et en fait, cette extension, elle est revenue par la communauté de communes qui maintenant la porte, qui dit officiellement que c'est pas l'extension de Soitec, mais qui veut transformer ces zones agricoles en zones industrielles. Du coup, là, l'objectif vraiment de la mobilisation aujourd'hui, c'est de signifier qu'on ne veut pas que ces terres soient bétonnées et qu'elles restent à usage agricole.
Et l'armement, c'est dégueulasse. Et l'armement, c'est dégueulasse. Et l'armement, c'est dégueulasse. Et l'armement, c'est dégueulasse.
Ben, on voit vraiment beaucoup de militants au milieu de ces montagnes avec des drapeaux hyper divers parce qu'il y a autant... évidemment les drapeaux Stop Micro, mais aussi on a vu des drapeaux de la Palestine, mais aussi là je vois la CNT, la Conf, des drapeaux queer, enfin du coup c'est hyper hyper divers quoi. Ouais, salut, je m'appelle Selma et je suis là parce que je viens pour la coalition Guerre à la Guerre. La coalition Guerre à la Guerre, c'est une coalition dans laquelle il y a une douzaine d'organisations. Donc il y a les Soulèvements de la Terre, Urgence Palestine, Tzedek, Palestine Action, Stop Arming Israël, la Marche de Solidarité, CSP 75, Contre-Attaque. Désolée, peut-être que j'en oublie certaines. Ce qui est sûr, c'est qu'on pense que là, il faut vraiment s'opposer à la militarisation et au système militaro-industriel français. Et que la lutte contre la guerre, c'est une priorité à la fois pour lutter contre le fascisme, pour lutter évidemment contre le capitalisme et pour lutter contre le déploiement des conflits guerriers. En fait, ce qu'on aimerait, c'est développer plusieurs actions contre le système militaro-industriel français. La première date à laquelle on appelle, c'est contre le Salon du Bourget qui aura lieu le 20-22 juin à Paris et qui est un salon de aéronautique, un salon dans lequel viennent des représentants d'entreprises d'armement du monde entier. C'est là que se font évidemment les rencontres, donc potentiellement se signent aussi des contrats. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est à minima perturber ce salon pour éviter que certains contrats entre le business de la guerre et de géants de l'armement se fassent, parce que... on est évidemment contre, à la fois contre la guerre, mais aussi contre l'économie de guerre et contre le business de la guerre. Et surtout, là, un autre point sur lequel on s'accorde, c'est qu'on est contre la présence d'Israël au salon, puisque évidemment, on est aussi tous contre l'occupation de la Palestine.
Est-ce que dans le collectif, vous mettez dos à dos tous les impérialismes? Pour vous, ce sont de même teneur et du coup, vous luttez aussi contre tous ces impérialismes?
Oui, en fait, à l'intérieur de la coalition, évidemment, on partage des points de vue différents sur nos analyses des rapports internationaux et des rapports de force à un niveau international. Disons qu'il y en a qui ont une vision plus de lutte contre ce qu'ils appellent l'impérialisme comme un système capitaliste, enfin, comme ils lutteraient contre le capitalisme, et puis d'autres qui vont voir plutôt le monde comme étant multipolaire, et réfléchir à la multiplicité des impérialismes, etc. Mais dans tous les cas, en fait, tout le monde s'entend pour dire que là, la priorité, c'est de lutter contre la militarisation de l'impérialisme français, quoi. Donc ça, je pense que c'est un peu au moins l'accord commun des membres de la coalition.
Il y a quelques personnes malheureusement dans ce cortège qui ont des smartphones avec elles. Excusez-les. On a vu passer sur les réseaux sociaux un communiqué. On se permet de vous lire puisqu'on sait que la plupart d'entre vous n'y sont pas. On va donc le lire maintenant. Écoutez bien.
Je peux le tenir.
C'est le communiqué du comité essentiellement anti-puce. CEA, on dirait. Télésine, everywhere you don't want to look. Ce dimanche 30 mars, après-midi, nous étions une centaine de personnes à nous introduire sur le site de production de l'entreprise Télésine, E2V de Sainte-Grève, pour le mettre hors d'état de nuire.
Télédine est une multinationale américaine spécialisée en imagerie digitale et en électronique.
Une multinationale américaine spécialisée en imagerie digitale et en électronique.
principalement pour l'aérospatial et l'armement. Le site grenoblois visé aujourd'hui est un acteur majeur de la production de puces dans le bassin grenoblois.
C'est le dernier maillon d'une chaîne de production destructrice qui s'étend partout à travers le monde, depuis l'extraction minière jusqu'à côté de chez nous. Teledyne est un partenaire de ST Microelectronics.
Teledyne a du sang sur les mains. C'est notamment la première entreprise exportatrice de licences d'armes depuis le Royaume-Uni vers l'État colonial et génocidaire d'Israël.
Les militants militantes grenobloises ont donc pénétré sur le site en faisant tomber les barrières. Ils et elles ont ensuite repeint la façade et se sont attaqués aux portails, badgeuses ou encore aux arrivées télécom.
Le sabotage du site grenoblois n'est pas un acte isolé. D'autres sites de Teledyne ont été visés ces derniers temps par les membres de Palestine Action au Royaume-Uni. En octobre, une action a été menée pour dénoncer la fabrication de composants pour missiles, drones, systèmes radars de surveillance et avions de chasse F-35 responsables de dizaines de milliers de morts à Gaza.
Les militants et militantes anglaises sont montés sur le toit de l'usine d'armement. Ils et elles ont découpé la tôle et sont rentrés à l'intérieur pour asperger les machines de peinture rouge, mettant ainsi à l'arrêt l'industrie de ces marchands de morts.
S'il est bon de marcher sur ses deux jambes, à Safran, nous avons choisi de voler de nos deux ailes.
Sur nos sites de Villeurbanne en France comme de Marchin en Belgique, nous regardons vers le ciel tout en gardant les pieds sur terre.
Nous sommes leader mondial et international dans l'aéronautique tout en restant humble et modeste.
Nous construisons des moteurs thermiques en nous appuyant sur le moteur humain.
Nous préservons notre planète tout en refusant d'investir dans une métropole tenue par des écologistes.
Nous promouvons le durable et nous investissons dans l'extractivisme.
Nous produisons des pièces pour des avions commerciaux et aussi pour des avions de guerre.
Nous permettons de traverser les frontières tout en les rendant plus meurtrières.
Nous imaginons des avions de plus en plus légers ainsi que le transport de bombes de plus en plus lourdes.
Nous engrangeons des profits tout en détruisant des pays.
Nous développons des nouvelles technologies et nous broyons des économies.
Safran,
Safran, Safran, Safran.
Pour que tu aies soit une expérience équilibrée, sans cesse réinventée.
Un de mes potes m'avait déjà expliqué que... qui lui habite près de mon école, il m'avait expliqué que là il y avait une nouvelle usine. Du coup, bah, j'étais un peu intriguée, vu que je savais pas qu'ils construisaient une autre usine à la place d'ArcelorMittal. Et du coup, un jour, je suis passée devant, puis après, j'ai parlé un peu avec mon père. Puis après, en fait, vu que ça m'intriguait, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu qu'ils construisaient là-bas des bombes. Des bombes, je pense, guidées. Et bah, du coup, bah, j'étais un peu furieux. Et j'ai regardé ça aussi sur les tablettes de l'école, vu qu'on a des tablettes à disposition. Et j'étais pas le seul de ma classe à être pas content, vu que ça veut dire que la ville de Marchin participe aussi à l'armement pour tuer des gens, peut-être à Gaza et aussi dans d'autres pays. Et du coup, bah, là, j'étais aussi un peu choquée, et voilà. Mais mes profs, ils ont dit, alors que d'habitude, ils sont très peace pour la paix, mais là, une fois, ils étaient un peu pour dire, ah, mais c'est peut-être de l'armement contre... qu'ils ont raison, quoi. Mais alors là, j'étais encore plus furieuse. Ouais. Et c'est comme si c'était normal de fabriquer des bombes guidées. J'aimerais bien faire un projet contre ça. J'aimerais bien qu'on aille faire un mini-blocage avec que des enfants parce que ça pourrait être plus relayé du coup dans les médias vu que c'est plus spécial quand c'est des enfants. D'ailleurs, j'ai déjà fait ici un rendez-vous avec mes potes pour parler un peu de ça, de tout ce qui va pas, de l'armement et tout. Mais j'espère que je vais réussir une fois à faire quelque chose. Et du coup, ouais, je vais essayer. Je dis pas qu'il va annuler la construction de Safran, mais peut-être qu'il dit, tu vois, que ça le fasse réfléchir et par après faire d'autres projets. Et puis, en tout cas, ça fera réfléchir les gens marchands et les gens de notre région. Et ouais, voilà. Aux ouvriers, je leur dirai plus. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous fabriquez? Je leur dirai juste ça. Eux, ils doivent bien trouver un travail, mais c'est au système capitaliste qui les oblige à avoir ce travail. Et du coup, je préférerais parler à leur chef.
Guerre à la guerre avec Mayday jusqu'à 19h sur Radio Canu. Safran, Villeurbanne.
Monsieur le directeur, on a un problème.
Ah, non mais des problèmes, c'est, j'en ai tous les jours. Alors hier, c'était les compresseurs basse pression, avant-hier, les inverseurs poussés, alors bon, les problèmes...
Oui, mais là, c'est différent. C'est à propos du site de production de Marchin.
Hein? Qui ça, Machin?
Non, Marchin, en Belgique.
Ah oui, Marchin, Marchin. Tiens, d'ailleurs, comment on appelle les habitants de Marchin? Vous savez ça, vous? Les Marchins, les Marchines, Marchin, Marchine. C'est marrant, non?
Oui.
Bon, alors, dites-moi votre problème.
Oui, donc, comme vous le savez, l'usine doit ouvrir cette année.
Mm-hmm.
Bon, il y a un peu de retard, mais ça devrait être bon courant du deuxième semestre 2025.
Et c'est ça votre problème?
Non, non, c'est au sujet de la mobilisation contre l'ouverture de l'usine.
Mais je vois pas en quoi c'est un problème. Il y a toujours des islamo-gauchistes pour râler quand on ouvre un site.
Oui, mais là, c'est différent.
Vous avez déjà dit ça, ma petite, là. Je veux pas vous presser, mais j'ai une réunion au hub de sécurité dans une heure.
Eh bien, monsieur le directeur, la mobilisation est partie des enfants de Marchin.
Des enfants?
Oui, les enfants de l'école primaire de Marchin ont organisé une manifestation qui a rassemblé plus de 3000 personnes. Pour une commune de 5000 habitants, c'est quand même beaucoup.
Non mais, des enfants? Non mais, il faut réagir, là, et vite.
Ben, c'est délicat, la presse est engouffrée là-dedans. Vous pensez, une mobilisation faite par des enfants? Sans compter le buzz sur les réseaux sociaux.
Enfin, faites quelque chose. Vous êtes la responsable de la communication. C'est votre boulot.
Oui, mon équipe réfléchit à un plan d'action, monsieur le directeur.
Bon, je sais pas. On pourrait peut-être faire un don à l'école, hein? Offrir des goûters aux enfants, des coloriages, des trucs comme ça. Des trucs pour les gamins, quoi.
On va pas les avoir avec des bonbons. Regardez ce qu'ils ont placardé sur les murs de Marchin.
Faites voir. La ville de Marchin participe à tuer des gens. Halte à l'armement et au système capitaliste. Je vois. On a affaire à des enfants radicalisés. Bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous au hub des sécurités. Peut-être que nos collègues de Thalès auront de bons conseils à nous donner.
On s'est rendu compte qu'il y avait localement un truc qui a un immense... très beau bâtiment en centre-ville qui s'appelle la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Saint-Étienne-Roanne, qui était au cœur de cette espèce de machine à faire du fric autour du militaire, du sécuritaire et de tout ce qui va avec. D'un côté, il y avait le cluster Eden dont on a un petit peu parlé. Ils sont partis à 8 en 2009. Maintenant, il y a 170 entreprises et ils sont présents dans toute la France. Donc c'est une espèce de réussite pour le lobby des PME, de l'armement et du sécuritaire. Parce que c'est des petites boîtes, enfin des boîtes de taille moyenne. Ça va de 2 à 50, 100, 150 salariés. Très diversifiés, donc ça va de l'armement ou l'espionnage électronique, de l'informatique, de la connectique, des puces. Enfin, il y a tout, il y a du déminage. C'est vraiment, c'est la foire, c'est la foire, c'est la foire. Et on a appris que la CCI se lançait dans une nouvelle aventure avec son président qui s'appelle Philippe Valentin, à savoir la construction du hub des sécurités. Un hub, c'est un point de convergence en fait, et où se retrouvent des tas de gens qui n'ont pas forcément l'habitude à l'origine de travailler ensemble. Ce hub des sécurités est en train de s'installer dans les anciens locaux de l'école de management de Lyon, qui est une propriété de la CCI, et aussi d'un groupe privé d'enseignement là qui est actuellement un peu dans la tourmente, qui s'appelle Galileo. Ce hub, il était présenté comme une Silicon Valley française de la sécurité. Ça va être un truc absolument fantastique où il y aura des chercheurs, il y aura des start-up, il y aura le cluster Eden qui va s'y installer, un stand de tir, des lieux pour se restaurer, pour fabriquer du militaro-sécuritaire.
C'est un projet de grande envergure qui va de toute façon lever des fonds publics. À la fois c'est une convergence, mais c'est aussi une centralisation de savoir-faire, de formation aussi, en lien avec les questions militaires, mais en lien avec des questions beaucoup plus globales, puisque le premier nom, en fait, de ce hub des sécurités, c'était le Centre européen de la sécurité globale. Au fur et à mesure de sa construction, ce projet change de nom. Nous, quand on l'a découvert au départ, c'était sur la question de la sécurité globale, et englobant justement des tas de sujets, jusqu'à l'alimentation. On voit bien que c'est quelque chose qui s'installe sur tous les aspects du sécuritaire. Et on souhaite aussi, donc, à l'avenir, travailler en intercollectif sur cette question-là, puisqu'on voit bien que ça dépasse aussi la question du simple techno-sécuritaire ou militaire.
Et en fait, il y a plein de pièces qui s'emboîtent. Par exemple, et c'est tout autour de la CCI, c'est un exemple, ça pourrait être autre chose. Par exemple, l'école de management, qui est une des grandes écoles de management française, voire mondiale, dans ses formations, elle a des diplômes reconnus d'État qui concernent tout ce qui est cybersécurité, cybersurveillance. Et en parallèle, il y a eu toute une réflexion entre 2015 et 2020 qui a concerné ce qu'on appelle le continuum de sécurité globale, qui est la nouvelle doctrine un petit peu de l'État sur ce que doit être la sécurité. Et la sécurité, elle doit être forcément globale. D'accord. Mais globale, pour eux, ça veut dire qu'en fait, que tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la sécurité, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient des organismes d'État, qu'ils soient des organismes privés, les sociétés de surveillance, les flics, le juridique, la police, la justice, tout ça se met ensemble pour travailler le plus harmonieusement possible, pour assurer la sécurité la plus globale, théoriquement aux citoyens, mais on ne sait pas exactement si ce n'est pas la sécurité la plus globale pour ceux qui mènent l'économie, qui tiennent la politique, etc. Ça a été décliné régionalement, et un des grands apôtres de ces études pour le continuum de sécurité globale, c'est le patron d'une boîte de barbouze lyonnaise qui s'appelle Corpguard. Et Corpguard, c'est une boîte qui est traînée dans des trucs, mais pas possible. Vraiment des trucs de barbouze, de formation de militaires, qui ont disparu et qui ont sans doute commis des massacres en Côte d'Ivoire. Dans une version antérieure, ça s'appelait la Secopex, leur chef a été abattu en Syrie par une faction syrienne avec qui il bossait, mais qu'il avait décidé de doubler. Enfin, vraiment, c'est vraiment des tristes cires. C'est son patron, qui s'appelle David Ornus, qui a été chargé de mettre en musique le continuum de sécurité globale pour la région Rhône-Alpes. Il a même été remercié par Colomb.
L'enjeu, en fait, est d'informer et de mobiliser pour que ce projet ne se fasse pas. Nous appelons à ce que Lyon, justement, ne devienne pas une capitale européenne militaro-sécuritaire, dans un contexte en plus où la ville de Lyon commence à changer d'avis sur la question sécuritaire, puisque le maire de Lyon commence à annoncer, donc à un an des élections, donc, une augmentation de 20% des caméras sur la ville de Lyon. Donc il faut justement pousser à faire en sorte que ce projet ne sorte pas de terre et à contester, en fait, une vision de sécurité globale, c'est une vision de contrôle global de la population avec des moyens technologiques et militaires. Et un des dispositifs sur lesquels on est en veille, et notamment Thalès, qui est présent dans la région, c'est la question du pass d'identité numérique. Le pass d'identité numérique, c'est un contrôle de la gestion de la population où, en fait, il sera demandé à terme, certainement au départ sur la base du volontariat, c'est en cours d'expérimentation, de présenter ses papiers d'identité à travers un QR code généré par un smartphone. C'est un dispositif qui est en cours d'expérimentation. On part du principe que le smartphone serait obligatoire, alors qu'aujourd'hui, aucune loi n'en fait un outil obligatoire, et que, en fait, pour prouver qui on est, il faudra être muni d'un smartphone. Il faut vraiment faire le lien entre ces dispositifs-là et ce projet de hub des sécurités qui sera aussi un laboratoire pour tester toutes ces technologies.
Nous, on a été très présents dans les manifs contre la réforme des retraites pour expliquer que l'argent, actuellement, il allait à deux gros postes qui, eux, ne connaissaient pas les restrictions, à savoir le militaire, avec la loi de programmation militaire, qui prévoit de faire passer le budget annuellement aux alentours de 70 milliards d'euros, et tous les budgets d'équipement du ministère de l'Intérieur en moyens de répression. Il y a des choix qui sont faits.
En 48 heures, on peut lever 100 milliards d'euros. Par contre, impossible, après plusieurs années en lien avec les luttes contre la réforme de la retraite, ou maintenant les violentes réformes en lien avec l'assurance chômage qui arrivent. En fait, l'impossibilité de lever en fait des fonds publics pour les services publics, pour la protection sociale. Donc déjà, se dire qu'il y a de l'argent pour faire la guerre et il n'y a pas d'argent pour assurer une vie digne pour tout le monde. L'enjeu actuel, c'est à la fois de pouvoir être en capacité de dire non à un contrôle général de nos vies qui est en train de se mettre en place via le numérique, qui a besoin de terres rares pour être fabriquées et qui donc généralise des conflits partout dans le monde, et notamment, donc là on le voit en Ukraine, mais depuis très longtemps au Congo.
Les empires, ça se construit comme ça, à la fois sur des vastes espaces où toutes les communications sont faciles, mais où tout circule pour enrichir une poignée d'entreprises, de prêtres, dans le cas des empires passés, de marchands, voilà. Comme le disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Hein.
Aujourd'hui, dans Mayday, on a parlé de la guerre et surtout de celles et ceux qui la fabriquent. Et dans cette émission, vous avez entendu des musiques de Tommy Moisy, de Rouge-Gorge, et là, c'est Psychic Gravel.
Pour écrire cette émission, c'est inspiré des textes sur la guerre.
Trouvé sur le blog blackblog.net et également de brochures du CRAM.
On a aussi pas mal consulté la documentation de Stop Micro.
Et le dernier livre de Mathieu Rigouste sorti à la Fabrique, La guerre globale contre les peuples, vive les sciences sociales. Le 21 juin, rendez-vous au Bourget à Paris pour perturber la bonne tenue du salon où seront présents vendeurs d'armes et clients mortifères. On ne sait pas encore si Netanyahou va oser pointer sa face malgré le mandat d'arrêt international qui le vise. Quoi qu'il en soit, soyez au rendez-vous pour l'accueillir et les accueillir tous. Bisous, bisous.
Ciao.